Ouais, bah moi je m'appelle Jean-Marie Duclos, j'ai 37 ans, je vais sur 38 ans, je travaille au port depuis 2001. Avant, j'ai fait une formation de carreleur mosaïste, parce qu'il fallait faire quelque chose, parce que l'école ne nous encourageait pas à vivre nos rêves. Moi, mon rêve, c'était de faire scaphandrier à la base. Et j'ai pas pu faire ce métier-là parce qu'il fallait aller à Marseille. Et puis Marseille, ben, c'était la COEXP. Et puis la COEXP, il fallait la payer. Il fallait un logement. Donc mes parents ne pouvaient pas financer ce projet-là. Port de pêche à l'écoute.
Et un tuyau d'eau.
4 piles, 3 palettes, un tuyau d'eau. Tout bien reçu et 4-5 coffres.
Deux piles, trois palettes, trois palettes, j'en ai eu.
2 piles, 3 palettes, tout bien reçu. Le métier de maître de port, c'est en fait le premier interlocuteur en fait qu'a le marin, le patron, le commandant, le capitaine. Dans tous les ports du monde, il a toujours un interlocuteur. Dans les ports de commerce, c'est un officier ou un commandant de port qui gère le trafic maritime. Et le commandant passe ses doléances au bureau, à la capitainerie. Un maître de port, voilà, c'est simplement la personne qui va faire tout le lien avec les petits bateaux. Au port de pêche de Lorient, on n'est plus que 5, avec un responsable. Les autres ports de pêche au niveau national n'ont plus de maître de port. C'est soit le commerce qui décide pour le port de pêche, mais il n'y a qu'à Lorient où on a une équipe de maître de port. Donc mon travail va consister à prendre toutes les doléances des navires, c'est-à-dire ils vont m'appeler par VHF, ils vont me demander, bah là c'est le petit bateau, donc un peu de palette, un peu de caisse, un peu de glace. S'ils ont un souci avec le gasoil, ben, je vais aller avec eux au niveau du gasoil. Les gens, les touristes qui vont venir, qui vont poser des questions, moi je vais leur répondre. Donc le quotidien va être ça, c'est vraiment du service au producteur, c'est-à-dire le pêcheur. Dans le métier, moi, c'est mon terme à moi, on est artiste en fait de ce qui se présente. C'est-à-dire qu'avec l'expérience acquise, il peut y avoir tout type de problème que moi je peux rencontrer. Un bateau en feu, j'ai déjà eu. Ils sont venus faire une soudure à bord, il y a un éclat de soudure qui est parti dans les filets, c'est tombé assez profond dans les mailles de filet, ça a couvé pendant 10 heures, et puis d'un coup, il y a le feu qui prend dans les filets. Donc le bateau est en feu. Donc là, c'est à moi de mettre en relation les pompiers, en relation le patron pêcheur, en relation l'officier de port du commerce, de sécuriser les autres bateaux autour. Là, je peux me permettre de, par exemple, larguer les bateaux, c'est-à-dire les désamarrer ou enlever les cordes ou les boutes ou les ficelles qu'ils ont à terre et les déplacer ou déplacer le bateau en feu pour pas qu'il brûle les autres. Je peux avoir une voie d'eau. Un bateau peut être 10 ans à naviguer 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, avoir zéro problème. Et pour qui, pourquoi, bah ce jour-là, il sera amarré et bah il va faire de l'eau. Parce qu'il y a une vanne peut-être de coque qui est mal fermée, parce qu'il a reçu un choc. On a eu des marins blessés à terre, des marins qui sont tombés à l'eau. J'ai eu un mec un jour, un marin espagnol qui a pété un plomb. Qui avait pris son couteau de ramandage et qui avait percé deux de ses copains à bord et qui courait avec son couteau partout sur les quais. Il a fallu la police pour le maîtriser. Bon, pourquoi? Parce que le mec, il avait perdu sa mère, il avait sa femme qui avait accouché et le patron ou l'armateur avait refusé de le laisser à terre en Irlande. Avec la fatigue, peut-être un peu l'alcool, peut-être les médicaments, il avait pété un plomb, le mec. Il y a X choses. Dans une carrière de maître de port, on voit de tout. Hein. On voit vraiment de tout. Hein. Il y a moyen de rigoler aussi. Je me souviens d'un patron que je tairai le nom, qui était parti un peu en perdition avec l'alcool. Et j'étais un samedi soir à 18h, et je vois un mec gesticuler à peu près à 100, 150 mètres du bureau. Je trouvais bizarre, il y avait une masse sur le sol. Je dis, va t'en savoir, il y a peut-être un qui a fait un infarctus là ou qui a un problème quelconque. Puis j'y vais. Puis je voyais, plus ça allait, plus je voyais que c'était une femme. Et donc une femme assez grasse. Et du coup, j'approche, et puis il me dit, va chercher un Fenwick. Je lui dis, pourquoi je vais aller chercher un Fenwick? Ben, va chercher un Fenwick, je te dis. Alors, ben, je lui dis, mais oui, ben, je vais la mettre sur une palette, et puis comme ça, je pourrais la mettre à bord du bateau. Ben, je lui dis, mais tu vas pas faire ça, non? Oh, si. Ben, je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Oh ben elle saoule! Ah, j'approche de la nana et je voyais bien qu'elle était saoule, mais lui aussi il était plein. Et du coup je lui dis, mais je peux pas faire ça. Je peux pas la mettre sur une palette, on va pas la glisser sur une palette et la cabaner à bord de ton bateau. Oh, puis merde et tout! Puis il commence à s'énerver, puis il monte à bord de son bateau et il rentre à la passerelle. Du coup, je me retrouve avec la nana sur les bras, allongée sur le quai, et je commence à lui donner des claques. Bon, je voyais que. Bon, c'est comme quand quelqu'un est complètement saoul, quoi. Et du coup, à un moment donné, elle me parle et je lui dis: Mais madame, ça va? Ouais, bah, baragouinait. Donc je l'ai traînée, assise, voilà, je lui dis: Madame, ça va mieux? Bon, bah là, elle a fait son rôle, comme les bébés. Et en fait, je suis monté à bord du bateau pour demander au patron, bah voilà, comment ça allait. Et le patron, en fait, il dormait à la passerelle. Elle était contre le mur, en face du bateau. Complètement saoul. Je dis, la scène est fantastique. On peut rencontrer tout type de situation et à aucun moment on a le droit de paniquer. C'est pour ça que sur le travail de maître de port, les gens qui sont recrutés maître de port, ils ont soit une expérience forte, soit comme moi. Ben, il a fallu que je fasse toutes mes gammes, commencer en bas, c'est-à-dire à laver les quais, faire les services, aide, maître de port à l'époque. Et j'ai pu voir que ben, le métier me passionnait. En fait, c'était ça que je voulais faire. C'était pas vendre le poisson, c'était pas être à la mécanique, c'était pas lever les bateaux, c'était maître de port. Ouais. C'était vraiment ça qui me plaisait, d'être au contact des marins, d'être au contact des bateaux, parce que j'aime les bateaux. Et puis d'avoir tout ce dynamisme-là. Et surtout de commencer le travail, mais jamais de savoir comment ça va se passer. Moi, je refuse de travailler à la chaîne. Halte aux cadences infernales, c'est mort. Avec moi, c'est mort. Mais par contre, comme tu as vu la nuit, il peut y avoir 50 ou 60 ou 70 bateaux qui vont rentrer au port de pêche. Là, je vais être au taquet. Parce que ça va partir dans tous les sens et moi, j'adore ça. Je vais avoir 50 demandes, je vais avoir X choses à faire. Là, ça va être hyper dynamique. Je vais courir dans tous les sens. Je vais essayer de faire correspondre tous les débarquements. Je vais essayer de gérer au mieux tous les débarquements, c'est-à-dire que tout ce qu'ils vont me demander, d'être voilà, vraiment essayer d'être performant au maximum pour que tout le monde soit content et que tout le monde puisse repartir en mer rapidement. Oui, port de pêche, j'écoute. C'est quel bateau? Ah, le Perzel. Alors, attends un peu. Alors, ouais. Alors, Perzel, tu avais 486,50 kg. Pour un prix de 2 300,82 €. Voilà, à toi aussi, salut. Donc là, sachant qu'il n'y a pas de responsable de criée, bah les pêcheurs m'appellent en fait pour connaître leur vente. Ça dépend ce qu'ils ont aussi, si c'est des filayeurs, des ligneurs, des chalutiers. Ouais, et puis là, on attaque en plus la saison de la langoustine. Quand tu vas commencer à vraiment vagabonder au niveau maritime, comme ça qu'on peut l'aborder, c'est du vagabondage. C'était pas comme sur Terre, on appelle ça du déplacement. Parce que eux, ils savent grosso modo où ils vont aller, mais la zone, ils vont tourner dans la zone. Les pêcheurs, c'est ça. Le marin, il va chercher son vent. Donc il va vagabonder pour trouver son vent, qui va l'envoyer à quelques caps de. Voilà. Ça va l'envoyer sur une trajectoire, qui va reprendre une autre trajectoire et une autre trajectoire, et ainsi de suite. Et en fait, tu louvoies. On louvoie constamment, eux, ils louvoient constamment. Quand tu vois un tracé de pêche sur les traceurs, tu vas voir que leur trait, il va être rond, il va être carré, ils vont tirer des angles droits. Et tu vas dire, mais ça n'a ni queue ni tête. Mais non, parce qu'ils cherchent le poisson. Donc ils sont avec leur radar, leur sonar, pardon, leur sonar, et hop, et tu vas voir qu'ils vont faire des S, des 8, des 10, des. Et puis à un moment donné, c'est que du gribouillage, comme les enfants. Mais sauf que quand tu te mets à l'échelle, quand tu es à bord du bateau, à la passerelle, au niveau de la barre, et ben hop, tu vas avoir une masse de poisson qui va passer aller à 50 mètres en profondeur et hop, qui va se diriger sur la droite. Donc toi, tu vas tourner ta barre pour aller sur la droite. Donc il va mettre son pilote en fonction de la trajectoire du poisson ou du passage parce qu'il y a des roches. Donc on appelle ça une coursive. Les marins, quand tu passes énormément de temps sur l'eau, c'est des gens qui sont vagabonds. Dans leur tête, ils sont vagabonds aussi. Mais le trois quarts du temps, le trois quarts de leur vie, c'est la mer. C'est madame qui s'occupe de la maison. C'est elle qui gère le quotidien avec les enfants, qui gère les travaux, qui va embellir la maison. Et eux, ben, ils vont arriver, ils n'ont pas envie de faire de travaux, ils ont plutôt envie de voir du monde, discuter. Parce que c'est vrai que quand tu es dans un bateau, un bateau par exemple avec équipage, à un moment donné, la conversation se limite, puisque tu as raconté ce que tu as fait le week-end, tu as taillé ta haie, tu as tondu ta pelouse, tu as regardé ça à la télévision. Et puis à un moment donné, ben, on va arriver vraiment sur le boulot. Et puis après, des ragots qu'il peut y avoir, l'information qu'il peut y avoir. Mais ça, au bout de 5 jours, à un moment donné, il y a des gros blancs. Il y a des moments, pendant 5-6 heures, ils vont pas discuter. Ils vont écouter de la musique, ils vont lire, ils vont regarder un film. Ils voient jusqu'à 50, 60 films par semaine. Voilà. Ça, on s'imagine pas, mais voilà. La radio, ils vont écouter de la radio. Quand ils arrivent à terre, ben, on voit que c'est des gens qui sont un peu bancals, qui vont avoir une attitude qui peut déranger. Parce que tout est à eux. C'est un peu kermesse, c'est un peu la vie. Ils sont plus soumis à une rigueur de travail. Parce que si tu n'es pas rigoureux, même sur un bateau de voile ou sur un bateau de pêche ou sur un bateau de commerce, tu es obligé de respecter toutes les règles parce que c'est le navire, c'est la coque qui dicte les règles. Donc si tu ne te soumets pas à cette rigueur-là, tu fais naufrage, tu meurs. Donc du coup, quand ils sont à terre, qu'est-ce qui peut leur arriver? Rien. Un accident de voiture? Tomber d'une échelle? C'est rien ça. Pour eux, c'est pour le marin, c'est quelque part, c'est une mort bête.
Moi, j'ai plein de récits de naufrage, des gens que j'ai côtoyés qui ont fait naufrage. Bah, ils t'expliquent que bah, c'est jamais simple. C'est pas comme un accident de voiture, c'est bête. Un accident de voiture, boum, bah, tu tapes, bah, boum. Sauf qu'un naufrage, bah, t'es dans l'eau. Et tu vois le bateau s'éloigner, tu fais canaveau. Sauf que tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Donc tu fais patrouille, tu fais trempette, ça dépend le degré de l'eau, et ça peut aller plus ou moins vite. Si l'eau est froide, ça va très vite. Si l'eau est chaude, ça peut être très long. J'ai un copain, Manolo, 24 heures en mer. Le bateau a sombré, l'équipage mort, seul survivant, a nagé dans l'eau pendant 24 heures. Et sain et sauf, et il navigue à nouveau. Il est sur l'Albatros à Vendée. Ouais.
Le quittéreux a besoin d'un repère, c'est-à-dire qu'un clocher, la vie, le quotidien, la rue, le champ, il va toujours avoir un repère, le quittéreux. On ne peut pas dire qu'il y a de points communs entre le cul salé et le cutéreux. Ouais. Parce que le marin, déjà, c'est un appel. Tu n'arrives pas à aller en mer comme ça. Il y a des gens qui sont allés en mer comme ça. Mais ils sont vite revenus à terre parce qu'ils ont vu les risques. Soit tu es fils de marin et tu as toujours baigné dedans, ou soit tu as un appel. C'est-à-dire que tu as envie et d'avoir l'envie de voir, tiens, bah, déjà d'aller en mer et ne plus voir l'horizon. Et de se dire, voilà, il n'y a plus de point de repère. C'est une ligne. Il y a du bleu, il y a du bleu clair. Il y a un soleil, il y a les étoiles, et il y a l'eau. Et eux, ils nous considèrent comme des Saint-Bernard, puisqu'ils vivent tellement des choses en mer, des fois qui sont très puissantes, qu'ils ne racontent pas à terre, parce que les gens, ben, ils ne vont pas les écouter déjà, donc ils vont nous parler. Mais quand ils arrivent à terre, ça y est, plus rien ne peut leur arriver. Ça y est, ils sont sauvés. Ils sont rassurés, la pression, l'adrénaline retombe, et ça, c'est énorme, quoi. Oui, port de pêche à l'écoute.
Oui, bonjour, pour savoir si on peut rentrer dans le bassin, là, faire un tour, s'il vous plaît.
Oui, j'ai aucun mouvement, hein, vous pouvez venir, pas de problème.
Ok, parfait, merci.